Donc bonjour tout le monde, merci d'être là. On plonge directement dans le sujet, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, on va pas y faire. Il y a 15 jours, je reçois un coup de fil d'un client, et le truc assez classique, hein, je lui dis mais comment ça va? Et il me dit ça va pas super fort. Donc ce client en fait il a une usine d'emballage, ouais, il fait des emballages. Et il me dit ça va pas super fort parce que j'ai une partie de la production qui est en panne. Parce qu'il me manque une pièce et que cette pièce elle est produite en Chine et que manifestement le sous-traitant a fait faillite, on ne sait pas trop comment récupérer la pièce, donc j'ai toute une partie de ma production qui ne tourne plus. Il me dit en plus, il y a 3 ans, j'ai mon expert comptable qui m'avait dit t'as 6 millions de stocks sur un chiffre d'affaires de 20 millions, c'est beaucoup trop, donc supprime tes stocks, donc j'ai plus de stocks, donc ça veut dire que je ne peux plus produire mais je suis en flux tendu. Là-dessus, j'ai mon directeur des services informatiques qui vient de se mettre en burn-out, donc il m'a planté, enfin, qui va pas bien, quoi. Et en plus, comme on est en train d'installer un système, on installe un système de badgeuse un peu nouveau, les syndicats nous tombent dessus et nous disent non, c'est beaucoup trop intrusif, donc on a une menace de grève. Et en plus, là-dessus, ma fille qui est malade, je vais à la pharmacie, enfin, ma femme va à la pharmacie et il y a rupture de stock des médicaments. Et là, quelque part, cette histoire-là, en fait, elle me paraît tout à fait représentative de ce qu'on vit tous plus ou moins en ce moment. C'est-à-dire qu'on a l'impression un peu que le monde craque, que nos organisations craquent, et qu'on ne sait pas bien si ça va pouvoir durer encore très très longtemps, cette histoire. Alors, cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de la performance. En fait, c'est compliqué de discuter de la performance et de la remettre en cause, parce que, quelque part, si on réfléchit bien, ça fait 12 000 ans qu'on performe. C'est-à-dire au moment où Homo sapiens a commencé à arrêter de courir, pour cueillir et chasser et s'installer pour planter du blé, mais il a commencé à se dire tiens comment je pourrais optimiser cette culture du blé. Et puis alors il a effectivement développé la culture du blé, puis il a développé des stocks, et puis il a mis en place des systèmes de protection et de sécurité de ses stocks, et puis il a enregistré ses stocks, et puis il y a tout un processus d'optimisation qui a commencé à se mettre en place depuis 12 000 ans. Et ce processus d'optimisation en fait connaît une accélération avec l'industrialisation, on va pas en faire toute l'histoire. Et puis dans les années 50, avec la mondialisation, ça s'accélère encore un peu plus, avec un monde de plus en plus concurrentiel. Et puis le digital arrive, et le digital va encore mettre un coup d'accélérateur, et on se retrouve sur une courbe quasi exponentielle d'organisations qui cherchent à performer. Sauf que cette performance, on se demande si elle est pas en train si ce système de performance n'est pas en train d'arriver à bout de souffle. Il y a quelques indicateurs, par exemple. Quand un bateau se met en travers du canal de Suez, bim, c'est 15% du trafic mondial qui s'arrête d'un seul coup. Quand un gars oublie d'actualiser un système de cybersécurité de Microsoft, bim, c'est 5 milliards pour le top 500 des entreprises, dont 2,4 milliards dans la santé, qui s'écroulent, juste parce que le gars a oublié d'actualiser le système de cybersécurité. L'année dernière, en 2024, en burn-out, 1 million de personnes. 1 million de personnes, ça fait que 4% de la population active, mais ça fait quand même 1 million de personnes. C'est pas rien. Et des exemples comme ça, qui nous laissent penser que ce système de performance est en train de craquer de toutes parts, il y en a des centaines d'exemples comme ça. Alors évidemment, du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi plus aujourd'hui qu'hier? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça craquerait plus qu'hier? Finalement, voilà, le monde a toujours été un peu fluctuant. Sauf que, ça c'est mon deuxième point, le système craque, mais il craque peut-être d'autant plus que le monde devient de plus en plus fluctuant. D'abord il n'y a qu'à écouter la radio le matin pour bien voir que l'instabilité géopolitique crée des fluctuations assez folles. Les déséquilibres socio-économiques, de la même façon sur la planète, sont en train de prendre des proportions assez colossales qui risquent de créer pas mal de chocs. Il y a de plus en plus d'écarts de richesse entre les pays pauvres et les pays riches, et au sein des pays riches. L'accélération technologique aussi, avec l'IA, on ne sait pas bien, et même ceux qui la développent ne savent pas bien vers où ça va nous mener. Et puis, peut-être plus encore que ces facteurs socio-économiques, politiques ou technologiques, il y a un dérèglement écologique, qu'on connaît bien à Saint-Paul-Lacoste, parce qu'on en parle souvent déjà depuis longtemps, et notamment avec la voix d'Adrien. L'effondrement de la biodiversité, moins 80% d'insectes en 30 ans. L'humanité n'avait jamais connu une telle extinction. Même les dinosaures, ça n'a pas mis 30 ans. La pollution de l'air. Il faut quand même savoir que 7 millions de personnes qui meurent dans le monde par an du fait de l'air pollué. En France, c'est quand même 140 000 personnes. J'ai fait le calcul, ça fait 119 personnes par jour. On le dit pas, mais c'est quand même pas rien. Et ça, c'est des sources de santé publique. Si on continue comme ça à égrener les ressources naturelles, hein, qui sont limitées, on sait que si on continue à consommer du lithium comme on en consomme aujourd'hui, en 2050, il n'y a plus de lithium. C'est la taxinomie de Mendeleïev qui disait il y a 69 éléments chimiques naturels. Maintenant, on en a compté 92 aujourd'hui. En 1800, il en fallait 9 pour faire tourner toute l'activité économique. Aujourd'hui, il faut les 92 et il y en a 26 qui sont en voie d'épuisement. Donc on sent bien que là aussi, ça, on va pas pouvoir continuer éternellement comme ça. À chaque fois qu'on fait une requête en IA, hein, sur ChatGPT, chaque requête, c'est comme si vous versiez un litre d'eau. Voilà, une requête, ça coûte un litre d'eau à la planète. Donc quand vous en faites 10, c'est 10 litres d'eau, etc. Donc on voit bien que ça va pas aller en s'améliorant si on continue à ce rythme-là. Et puis quand on regarde les conséquences du dérèglement climatique, entre 1980 et 2000, et quand on compare cette période-là avec 2000-2020, les épisodes de température extrême ont augmenté de 232%, les épisodes de sécheresse de, je crois que c'est 49%, les inondations 72%, enfin, on est dans des chiffres qui sont assez vertigineux. Donc d'un côté, on continue à faire comme si de rien n'était, à performer comme des brutes. En performant, on tend le système et on le sophistique. De l'autre, ça secoue dans tous les sens et il y a des fluctuations dans lesquelles on est déjà entré et qui vont aller en s'intensifiant. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de tension qui fait que ça risque de ne pas durer très très longtemps. Alors, quand on se retourne du côté du vivant non humain, et là, c'est pas moi qui me retourne, c'est Olivier Hamant, donc mon co-auteur, qui est biologiste. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le vivant non humain, lui, par contre, il est sous-optimal. En fait, il est presque tout le temps sous-optimal et de temps en temps, pim, il performe. Hein, par exemple, alors moi je ne suis pas du tout biologiste, donc je ne vais pas m'aventurer très très longtemps sur ce terrain-là, mais par exemple, nos enzymes qui sont à 37 degrés, elles montent à 40, 41 quand le corps est infecté, et puis après elles redescendent. Quand elles montent à 40, 41, en fait, certaines des enzymes ont une puissance de fois 1 million. Quelque part, notre corps n'est plus le même corps quand on a de la fièvre. Notre corps se transforme. Mais on voit bien que si on restait comme ça pendant plus de 3 jours, le corps mourrait. Donc, le vivant, lui, passe son temps, en fait, à être sous-optimal. Et de temps en temps, bim, il a des petits pics de performance quand c'est nécessaire. Et donc, il est robuste. Ce qui veut dire déjà, et c'est un peu premier élément qu'on peut garder en tête, c'est que la robustesse n'est pas contraire à la performance. Simplement, la performance est une petite composante de la robustesse, une toute petite composante. Et plus largement, quand on regarde le vivant, ce vivant sous-optimal, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il est lent, imprécis, fait de hasard, fait d'erreurs, de redondance, tout ce qu'on essaye de chasser dans le monde de la performance. Or, c'est ça qui lui permet de passer toutes les fluctuations et finalement de continuer à être là alors que nous, on se fragilise. Sauf que, donc premier point, le monde est performant, ça vous le saviez, mais ça craque de toutes parts. Deuxième point, ça fluctue dans tous les sens et ça risque de pas aller en s'améliorant si on continue comme ça. Troisième point, bah, quand on se retourne, on voit que le vivant est sous-optimal et il y a peut-être des trucs à récupérer, des idées à prendre du côté du vivant. Sauf que, on sait que comparaison n'est pas raison. En clair, les enzymes, elles n'ont pas de conscience, a priori, sauf preuve du contraire. Elles n'ont pas d'intention, il n'y a pas de jeu d'acteur, il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas tout ce qu'on trouve dans une organisation. Et puis en plus, c'est peut-être pas mal la sous-optimalité, mais si demain j'emmène mon fils aux urgences et qu'on me dit non, mais là on est sous-optimal, on est robuste, donc repasser après-demain, on voit bien qu'on est ambivalent par rapport à ça. D'un côté, on se dit que, mais de l'autre, on aimerait bien quand même que quand ça nous concerne, que ce soit optimal. Alors, du coup, on s'est intéressé à des entreprises et des organisations humaines qui nous paraissaient être sur la voie de la robustesse. Alors, c'est quoi la robustesse ? Basiquement, on pourrait dire que c'est le Chanel roseau, et c'est vraiment le Chanel roseau, une image finalement assez simple. Ou de façon aussi presque aussi basique, on pourrait dire que c'est une organisation ou un système qui est à la fois stable et viable. Hein, à chaque fois qu'un système n'est plus très stable et met en cause sa viabilité, il est plus très robuste. Donc voilà, là on a un élément de définition assez simple. Et donc, on est allé voir du côté d'entreprises qui nous paraissaient comme ça, à la fois chaîne Roseau ou stable et viable. Et on a pointé un certain nombre de ce qu'on appelait des capsules de robustesse. Alors, on est allé voir des entreprises. On a vu aussi un laboratoire de recherche. On a vu aussi une coopérative. Moi, de mon côté, je vais régulièrement en Mongolie et je m'intéresse de plus en plus près à la robustesse des nomades au nord de la Mongolie, parce qu'effectivement, ils sont dans des environnements assez fluctuants et de plus en plus, notamment avec le dérèglement climatique. Et donc, en regardant tout ça, on a commencé à repérer un certain nombre de ce qu'on appelait des capsules de robustesse. Alors, exemple, on s'est rendu compte qu'une organisation robuste, c'est une organisation qui cultivait les interactions. Dans le monde de la performance, les interactions, non pas qu'il n'y en ait pas, mais on n'aime pas trop ça quand même. En tout cas, on aime bien les canaliser, on aime bien les organiser, les rationaliser, parce qu'une interaction, c'est du temps. Et que le temps, c'est de l'argent. Donc du coup, inévitablement, on a envie de les organiser. Dans le monde de la robustesse, c'est ouvert et les interactions sont multiples. Et on aime bien les interactions parce qu'on sait que, en cas de crise, en cas de gros problème, bah, s'il y a un lien qui est rompu, il y en a un autre qui existe ici. Et puis on sait aussi que l'interaction, c'est la solidarité. À chaque fois qu'il y a de l'interaction, il y a de l'échange, il y a du don et du contre-don. Et puis on sait que potentiellement, ça peut créer de l'innovation. Et puis ça crée de l'apprentissage. Donc voilà, là on a typiquement une capsule de robustesse. Autre exemple, l'hétérogénéité. Là aussi, hein, dans le monde de la performance, on n'aime pas trop l'hétérogénéité. On préfère standardiser, on préfère avoir des choses qui s'emboîtent, qui sont toutes les mêmes, parce que comme ça, on peut, d'une même voix, d'une seule voix, tout gérer. Dans le monde de la robustesse, au contraire, l'hétérogénéité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a par exemple un mathématicien, Scott Page, en 2007, qui a sorti une étude qui montre que, face à des problèmes complexes, les groupes hétérogènes règlent beaucoup plus facilement ces problèmes qu'un groupe très homogène. Exemple d'hétérogénéité, c'est Ultéria, une entreprise qui est en Rhône-Alpes. Ils font des meubles. Et puis, il y a quelques années, il y a un fonds d'investissement américain qui veut les racheter pour tout standardiser et développer leur production. Et les gars disent, nous, en fait, on va pas se vendre, on va faire l'inverse. On va s'hétérogénéiser. Et ils créent une ferme, ils créent une école, ils créent une crèche. Et en fait, ils hétérogénisent complètement leur activité. Et ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'il y a un coup dur, ils ont toujours des points d'appui sur lesquels ils peuvent se reposer pour rebondir. Autre exemple donc je vais pas vous les donner, il y en a une douzaine, mais autre exemple de capsule de robustesse, pardon. La taille. Par exemple, on se rend compte que dans le monde de la performance, on aime bien faire grossir. Au-delà de l'hubris et de l'ego de ceux qui sont à la tête de ça, on aime bien faire grossir parce qu'effectivement, on fait des économies d'échelle, on a une masse critique qui rend plus fort, etc. Dans le monde de l'hétérogénéité, dans le monde de la robustesse, pardon, on n'aime pas trop grossir. Par contre, on aime bien, on peut se développer. Il y a un bon exemple, c'est une entreprise hollandaise, 10 000 personnes, 850 unités, mais chaque unité est très autonome. Ce qui les relie, c'est un système de gestion, et puis c'est une vision assez commune. Mais pour le reste, c'est le principe de subsidiarité qui l'emporte, c'est-à-dire que c'est celui qui est au plus près du terrain qui décide. Donc, la robustesse ne veut pas dire rester petit. Par contre, ça veut dire qu'on va se développer plutôt comme un rhizome. On va se développer sans forcément qu'il y ait une logique pyramidale, verticale, avec un grand chef et des sous-chefs. Et puis, voilà, d'autres exemples, l'ancrage local, par exemple, on se rend compte que c'est un... Tiens, c'est un exemple intéressant. Bonduelle, au moment où la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, Bonduelle se retrouve coincé en Russie, en se disant, en fait, on ne peut plus être approvisionné. Du coup, il décide de couper les ponts et de mettre en place un système complètement ancré localement qui va de la terre à l'assiette. Et donc, ils contractualisent avec des paysans, ils achètent des terres, et puis ils vont maîtriser toute la chaîne, et ils se rendent compte qu'en fait, en maîtrisant la chaîne, ils sont à l'abri de toutes les fluctuations de taxes, de transport, évidemment de toute la stabilité géopolitique en plus environnante. Et c'est un modèle d'ancrage local qu'ils sont en train de développer, notamment au Brésil, par exemple, en ce moment. Donc, on a comme ça identifié une série de capsules de robustesse qui laissent penser que nos organisations pourraient basculer de la performance à la robustesse. Alors, pour terminer cette prise de parole, et puis après peut-être échanger, parce que je ne voudrais pas tout monopoliser, il y a quand même quelques principes qui nous paraissent importants pour aller vers la robustesse. Le premier principe, et peut-être non moindre, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas un modèle de la robustesse. Il n'y a pas de modèle de la robustesse. En fait, la notion de modèle, elle appartient au monde de la performance. Un modèle, ça veut dire des cases, des critères, des objectifs, des gens qui contrôlent, qui s'assurent qu'on a bien atteint le modèle, des gens qui viennent évaluer. Nous, on pense qu'il n'y a pas de modèle de la robustesse. C'est-à-dire que la robustesse de Saint-Paul Lacoste, elle n'empruntera pas le même chemin que la robustesse de La Salle ou que la robustesse de Saint-Jean-du-Gard ou que la robustesse de l'École des Mines. Chaque organisation humaine doit se poser la question de c'est quoi ma robustesse et sur quoi je peux l'appuyer. Par contre, ça suppose qu'elle ait une intention de robustesse. Donc ça, c'est le premier principe, pas de modèle, mais une intention. Deuxième principe, dans une organisation robuste, en fait, on accepte l'incertitude. On compose avec l'incertitude. Dans le monde de la performance, on n'aime pas l'incertitude. Donc on cherche à la maîtriser. Dans le monde de la robustesse, ça n'empêche pas de gérer les risques, ça n'empêche pas de mettre en place des processus de gestion des risques qu'on pourrait éviter, mais on accepte l'incertitude et on va vivre avec. Et donc on se donne les moyens finalement de faire face à l'imprévu et on verra bien, ce qui veut dire que, et ça c'est un mot-clé, en fait on se donne du jeu dans les rouages. Une organisation robuste, elle remet du jeu dans les rouages, elle arrête de tout resserrer pour tout contrôler, elle est plutôt au contraire sur une logique de « j'ai du jeu dans les rouages, donc si ça coince, je pourrais m'ajuster ». Donc deuxième principe, on compose avec l'incertitude. Troisième principe, c'est le principe de la santé commune. Alors la santé commune, c'est un concept développé par Michel Serres, et c'est l'idée que une organisation est robuste que si à minima la santé humaine, donc la santé de l'individu, la santé sociale et la santé des milieux naturels vont bien. Si l'une de ces trois composantes va mal, ça recrée de la fragilité. Ce qui veut dire que ne penser qu'à l'environnement sans penser à l'humain, ça n'a pas de sens. Ne penser à l'humain sans penser à la société, ça n'a pas de sens, etc. On peut le tourner dans tous les sens. Et donc, dans une organisation robuste, la santé commune est centrale. C'est une priorité. Quatrième principe, dans une organisation robuste, on cherche toujours, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, on cherche à se remettre en équilibre. On a un bon exemple comme ça d'entreprise qui fait ça, c'est Patagonia. Patagonia, quand ils font des bénéfices, en fait, ils réinvestissent une grosse part des bénéfices en les réincorporant dans la planète. Donc d'ailleurs, ils ont même construit une fondation qui recycle une bonne partie de ces bénéfices. Histoire de dire, j'ai pris à la planète ce qui m'a permis de faire des bénéfices, donc je remets au pot pour retrouver une logique d'équilibre. Et puis enfin, dernier principe, c'est qu'il n'y a pas de... La priorité, c'est pas, vous l'aurez compris, la performance, c'est plutôt d'aller combiner plusieurs capsules de robustesse pour faire système, pour faire boule de neige, pour qu'il y ait une logique d'entraînement, qu'il y ait une logique qui se viralise. Et donc, on voit bien qu'en fait, face à cette idée de robustesse, on est obligé d'être modeste, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément bien par quel bout le prendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que ça vaut le coup de se poser des questions et que c'est plutôt dans les questions qu'on se pose qu'on va avancer davantage que dans la recherche systématique de réponses immédiates. Et donc, pour terminer, et puis après, pour passer la main, je crois qu'en conclusion, on pourrait dire que on voit bien qu'il n'y aura pas de grand soir de la robustesse. Hein, on aurait coché toutes les cases, puis on appuie sur le bouton et ça y est, on est robuste. On voit bien qu'il n'y aura pas de grand soir de la robustesse, mais qu'il y aura plutôt des petits matins. Et que petit matin après petit matin, on peut gagner, comme ça, en robustesse au sein de nos organisations.
Hein. Et ouais, je veux bien, ouais, si tu veux.
Allez. Merci. Mais c'est pas fini. Du coup, je vais peut-être passer la parole à Sébastien, parce que d'abord, c'est lui qui doit partir le premier. Et puis aussi, je crois qu'à l'École des Mines, ils sont déjà en train d'engager une réflexion là-dessus. Et donc, ça peut être intéressant d'écouter. Merci beaucoup.
Okay. Merci.
Bravo.
Bonjour à toutes et tous, je suis Sébastien Martinet, je travaille à l'École des Mines, donc après un charbonnier, on passe à l'École des Mines, tout est logique, en Cévennes, bienvenue, blague, Michel. Je te pique un peu ton métier, je suis désolé. J'ai préparé cette table ronde, j'ai lu ton livre, et je me suis dit, on en fait un peu, des bribes, en toute humilité, et finalement on est sur la bonne voie, un peu comme si ce qui nous entoure, nous pousse vers cette voie aussi, pour ceux qui sont un peu éveillés et qui ont envie de prendre les choses en main. Voilà. Donc, nous, on a très envie d'être un lieu ressource, puisque passer de l'économie extractive à l'économie régénérative pour une école des mines, c'est quand même assez chaud, surtout au sein du ministère de l'Industrie. Donc, on a envie d'être une mine de solutions pour le territoire. Et on est aussi à une époque où nos jeunes que l'on accompagne, puisque nous, on accompagne des jeunes entre 21 et 25 ans, parfois 28 quand ce sont des docteurs, ben, en fait, eux achètent de moins en moins le modèle de produire pour gagner du pognon, etc. Et donc, en fait, ce auquel on a réfléchi, on a proposé au territoire d'être, par exemple, opérateur de prospective, c'est-à-dire de dire où sera l'Occitanie en 2050, où seront les Cévennes en 2050, et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Parce que d'abord, ce n'est pas une science très précise, et ça veut bien dire qu'on a besoin de tout le monde sur le territoire pour se dire quels sont nos futurs souhaitables. Parce que faire de la prospective, ce n'est pas une boule de cristal, c'est juste se dire qu'est-ce qu'on veut rendre. Quels sont les futurs souhaitables et comment on veut les rendre possibles. Alors on va peut-être pas y arriver, mais au moins ça permet de dessiner des trajectoires vertueuses. Et ça fait le lien avec ce qu'on appelle la responsabilité territoriale des entreprises. Donc en fait, en préparant, je me suis dit, mais si on était une école robuste, qu'est-ce qu'on fait déjà? Donc déjà, les scénarios d'anticipation, de fait, puisqu'on fait de la prospective et qui fait partie du sujet. Et pourquoi on pourrait être légitime? Parce qu'on a des jeunes. Parce qu'on a des laboratoires de recherche sur des thèmes comme par exemple la protection de l'environnement, comme par exemple la gestion des crises, comme par exemple le bâtiment durable, comme par exemple on est en train de travailler avec Albi sur des rails en composite pour éviter, enfin pour faire des rails plus simples, plus légers, etc. Donc voilà, on pense avoir la possibilité et surtout on a un incubateur d'entreprise. Et ça, c'est important pour nous de se dire, si on veut garder des talents aussi sur le territoire, incubons des entreprises vertueuses sur ce territoire. La meilleure façon de garder un jeune qui vient, parce que nous, on est en recrutement national et même international, la meilleure façon de garder un jeune qui vient d'une autre région, je pense, c'est de lui permettre aussi de créer son entreprise en local. Et alors, c'est là où on essaye d'être vertueux, pas que des entreprises pour fournir des biens et pour la production. Quand je suis arrivé à la fin de l'année 2022, l'incubateur n'incubait que des entreprises de production de biens. Donc production de biens égale ressources premières, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai demandé, c'est qu'on pivote pour aller vers l'économie de la fonctionnalité de la coopération, où on s'intéresse plus à l'usage qu'au bien, en fait, et du réemploi. Dire voilà, comment je crée une économie autour du réemploi, par exemple. Alors c'est à nouveau, hein, au sein du ministère de l'Industrie, ça décape un peu, mais on ne va pas lâcher. Ce qu'on essaie aussi d'inculquer ou d'apprendre à nos élèves, c'est la culture de la sobriété, de la durabilité. C'est-à-dire que l'idée de dire « faites-moi une obsolescence programmée, comme ça on va vendre plus de téléphones », ça c'est niette. Donc on les aide à travailler sur tout ce qui est low-tech. On parle du coût de l'excellence, et ça on en parle beaucoup, surtout à nos agents. Il y a un excellent livre d'ailleurs qui s'appelle « Le coût de l'excellence ». Avec l'excellence, on brise des gens, en fait, à vouloir trop chercher l'excellence. Alors que je pense que quand on place la confiance, comme l'a dit Olivier, au centre du jeu, ben, on obtient 10 fois plus qu'en pressant très fort. Donc voilà, ce sujet de la confiance. Et on essaye, en toute humilité, de mener des projets avec nos élèves qui ne sont pas que techniques, mais qui vont aussi parler de ce développement personnel. Donc en petite équipe, on les fait travailler sur c'est quoi écouter. Ça semble simple, mais écouter vraiment quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde. C'est quoi respirer? Parce que quand on respire, on est en pleine conscience, on est ici et maintenant, et on écoute. Et puis c'est quoi être assertif? C'est-à-dire comment je donne mon opinion sans écraser celle des autres. Et ce qu'on se dit, c'est si on forme des ingénieurs qui sortent de l'école, qui savent écouter et respirer, ça sera déjà pas mal quand même. L'autre sujet qui nous tient à cœur pour le territoire, c'est l'économie industrielle et territoriale, l'écologie industrielle et territoriale, pardon. C'est un exemple très précis, très concret. On a 40 millions de carrés de surface de plancher à l'école des mines, à Clavière, dans un lieu résidentiel. Et en fait, les deux idées les plus simples qui nous sont venues, c'est de dire, nous, on a 4 mois par an où l'école est quasiment vide. Parce que nos élèves partent en stage, parce qu'on a des apprentis en alternance, parce que les gens sont en vacances, etc. Et on se dit, c'est peut-être couillon que les personnes aient à réserver des salles de réunion, des amphithéâtres, etc. Alors que les nôtres, pendant 4 mois, ils sont là, on les débranche pas, quoi. En plus, donc on paye l'électricité, et il y a des parkings, etc. On se dit, au lieu de construire d'autres lieux, peut-être qu'on peut, celui-là, le mettre à disposition du territoire. Et une autre idée, et ça, merci au syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles, c'est autoconsommation citoyenne. On a des toits. Veux-tu en voilà, forcément. Et donc on se dit, bon, on est dans un quartier où les gens viennent habiter. Nous, on consomme l'électricité en journée. Eux, ils consomment l'électricité la nuit et le week-end. quand l'école est fermée. Il y a peut-être un truc intelligent à faire, qui est de dire, puisque nous, on a quand même beaucoup de surface de toit, on met des panneaux et ça profite effectivement au quartier. J'ai vu ça sur le Mont Lozère, une fois qu'on est, voilà, on a fait la réunion, ça a fait tilt. J'enquiquine tous les jours le responsable de la division logistique. Je lui dis, je veux deux choses dans les nouveaux bâtiments, c'est un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et des panneaux. Voilà. Et après, tu fais des salles de cours si tu veux. Mais bon, j'exagère un peu. Et l'autre, un autre sujet qui était important pour moi, c'est l'université populaire. Ce dont on crève, en plus des médias et des réseaux sociaux, c'est la désinformation et c'est le fait que les personnes n'aient pas accès à une information d'un juste niveau. Je ne parle pas qu'on soit tous... mais d'un juste niveau, par exemple, sur l'énergie. Nous, on a des spécialistes de l'énergie à l'école. Je me dis, pourquoi on ne ferait pas de temps en temps des conférences gratuites, ouvertes à tous, pour dire, ben voilà, ça ne veut pas dire qu'on va vous dire ce que vous devez penser. Mais on va, par exemple, faire ensemble une analyse de le nucléaire, le pour, le contre, vraiment une approche globale pour que les personnes, eux-mêmes, soient en situation de se faire leur propre opinion. C'est juste inspiré de quelqu'un qui fait ça à la Sorbonne sur des sciences politiques, en fait, où il permet à tout un chacun de venir et de se faire son opinion sur les courants politiques, etc. On a une bipolarisation qui est poussée par les médias et les datas, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu les algorithmes, ils sont un peu rotors. Je vais prendre un exemple apolitique, comme ça vous verrez, vous savez pas pour qui je vote. Je suis supporter de l'OM, et donc tous les jours, n'est-ce pas, tous les jours, on me pousse quoi comme info? Des infos sur l'OM et des infos sur le PSG, pour me faire surréagir. Et du coup, on clive et on oppose. C'est la baston tout le temps. Et ça, c'est pas possible. Enfin, moi, je pense que j'ai pas envie de ce modèle-là pour mes enfants. Hein. J'ai 4 enfants, et j'ai pas envie de ce modèle-là. Et donc, ça rejoint aussi le modèle de la confiance. Si on veut des choses robustes et donner la possibilité aux personnes de s'autodéterminer, enfin, déjà, tous les trucs toxiques là, sur les médias, les réseaux sociaux, à mon avis, il faut l'arrêter. Donc voilà, une façon, ça pourrait être de proposer cette université. Je veux dire, nous, on a des grands amphis, on en a un qui fait 400 places. Ça nous coûte rien, j'ai envie de dire, quoi. C'est même couillon de ne pas le faire. Voilà. Donc, quelques idées, des idées simples. Et un sujet sur lequel on a fait travailler nos élèves, c'est l'innovation frugale. On a invité un gars qui vit en Inde et qui est le spécialiste de l'innovation frugale pour faire penser nos élèves. C'est-à-dire, quand vous voulez innover, ne pensez pas forcément nouvel outil digital, nouveaux besoins, nouvelles techno et peut-être des choses dans le réemploi qui peuvent être intéressantes. Ça s'appelle l'esprit Jugad, je crois. Il y a un super livre sur le sujet. Voilà. Donc on est dans un territoire un peu particulier. L'école des mines d'Alès, c'est la seule école du Gard, donc la seule des Cévennes, de fait. En Occitanie, il faut aller du côté de Toulouse ou de Montpellier pour avoir des écoles. Donc en plus, la particularité de notre isolement sur le territoire nous rend encore plus désireux de faire ça. Enfin, il y a une logique qui est implacable. C'est l'école, elle est dans les 20 meilleures écoles de France. C'est parce qu'on a ces spécificités-là. C'est pas parce qu'on a les meilleurs élèves, etc. C'est parce qu'on développe des spécificités. Et quand vous regardez les 6 domaines d'excellence de l'école, c'est protection de l'environnement, gestion des risques, bâtiments durables, éco-matériaux. Et ça fait un petit moment que ça a été décidé à l'école. Par contre, on continue à former des mineurs. Ça, c'est la seule école de France qui continue à former des mineurs. Et il y a un gros sujet, puisqu'on nous a dit « gardez-les surtout parce qu'on va réouvrir des mines de lithium ». Et là, c'est un vrai débat, parce qu'avec nos élèves, on a plutôt envie de dire... parce qu'une mine de lithium, c'est l'équivalent de la ville de Pau, je crois, en consommation d'eau annuelle. Bon, donc ça crée quand même un souci. Et donc là, on a plutôt envie, avant qu'on nous pousse à aller vers ouvrir des mines de lithium, de chercher avec nos élèves assez rapidement des solutions pour soit éviter... soit avoir des mines vertueuses. Voilà. Mais c'est un sacré sujet. Voilà. Donc on est sans cesse un peu sur un fil là, de funambule avec un ministère de l'Industrie qui nous demande de former des gens pour l'armement et pour les mines. Et de notre côté, nous, on n'a plus envie de faire ça, en fait. Et puis moi, j'ai pas envie que mes gamins ils fassent ça, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ce que nous souhaitons, c'est une école économe, résiliente, connectée et vertueuse. C'est en ça que je dis le modèle robuste. Je me dis, on peut peut-être être une école robuste et le revendiquer, et que ça devienne notre spécificité, et l'assumer, en fait, le revendiquer, quoi. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas qui prend la suite. Tu vas redire.
Je peux tout dire.
Pas mal de choses.
Oui, bien sûr.
Bonsoir. Donc moi, Ingrid Bazin. Donc je suis biologiste, en fait. Voilà, c'est rigolo. Je vous avoue, je me souviens lorsque je suis arrivée à l'école des Mines d'Alès, franchement c'était une école que je ne connaissais absolument pas, hein. Je viens du monde du médical en fait, à la base. Alors, je vais poser mes notes parce que je sens que comme d'habitude, comme mes cours en fait, je dirais pas du tout le quart de ce qui est écrit là. Donc je venais de l'industrie pharmaceutique après être passée par le CEA, où là j'ai travaillé vraiment sur des projets de dépollution des sols, donc pas du tout dans le nucléaire. Et quand on m'a dit bah, y a une école des mines hein, qui cherche une biologiste pour travailler sur les problématiques de détection de pollution dans l'eau, j'ai dit tiens, l'école des mines c'est où ? Alès c'est où ? À l'époque j'étais à Toulouse, alors je vous dis que Alès... Ouais mais je connaissais pas du tout. J'étais dans le sud, ça s'arrêtait là. Bref, et quand je suis arrivée ici, j'ai regardé un peu les cours, parce que moi, à la base, je donnais déjà quand même pas mal de cours de biologie, hein, à l'Université de Toulouse, à l'Université de Hoche, à l'IUT, etc. Et on me dit, je suis censée être enseignante-chercheuse. J'ai un peu dans ma tête le modèle un peu universitaire. Vous avez vos 192 heures de cours obligatoires. Donc j'arrive, je dis, combien d'heures de cours obligatoires j'ai ? On me dit, il n'y en a pas. Je dis, comment ça, il n'y a pas de cours obligatoires ? On est là, en fait, pour développer de la connaissance. La connaissance, c'est pour l'apporter aux étudiants. Et donc, j'ai un petit peu galéré quelques années, en fait, avec cette direction. Et au final... ils ont accepté de me donner quelques cours de biologie, après avoir expliqué que pour moi, former des ingénieurs qui vont être à la fois des citoyens et des acteurs, hein, des actifs avec des entreprises, des territoires ou autres, faire en sorte qu'ils n'aient absolument pas conscience qu'eux-mêmes font partie d'un écosystème, pour moi, c'est une aberration. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'avais un peu défendu. Donc on m'a dit « Ok ». Comme tu es plutôt pédagogue, ce qu'on va t'accorder, en fait, c'est ce qu'on appelle les unités, mais électives, c'est-à-dire tout le monde n'a pas besoin de le suivre. Et comme ça, tu vas parler un petit peu de biologie à tes élèves. Bon, ça m'a donné un petit peu de quoi faire. Et finalement, année passée, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces élèves qui étaient passés par mes cours, par lesquels, en fait, bon, ce sont des élèves qui, franchement, la biologie, pour eux, c'était très, très loin. Hein. Je leur parlais de génétique, de biomol, ils ne savaient même plus qu'est-ce que c'était qu'une ADN, qu'une protéine. C'est quelque chose qui ne leur parlait absolument pas. Plus, en tout cas. Et moi, quand je leur parlais, par exemple, de génétique, eh bien, ma première slide, en fait, c'était la slide de migrants sur un bateau au niveau de la Méditerranée. Ils me disaient, on ne comprend pas. Et au final, je leur parle, de clonage, que si on se reproduit entre soi, finalement, justement, on ne va pas vers la robustesse, on ne va pas vers la résilience, vers l'adaptation, que justement, accepter l'autre, c'est quelque chose qui s'est fait déjà depuis très, très longtemps pour avoir de la diversité génétique, pour avoir de la variabilité, donc pour pouvoir résister, en fait, notamment à des maladies, etc. Donc, accueillir l'autre... et lui permettre de rentrer sur son territoire, c'est quelque chose de justement de très bon, en fait. Et donc voilà, donc là, donc finalement, ça dérivait toujours du côté politique, souvent dit de toute façon, quelle que soit la manière dont vous faites vos cours, c'est politique, on peut le dire comme on veut. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je crois. Et donc ça a dérivé comme ça, et j'ai eu quelques élèves à qui ça a tilté, et qui sont même partis travailler au Shift Project. Et ça, c'était une vraie réussite, et j'ai dit, je suis assez fière d'avoir réussi à introduire ça, en fait, dans cette école, qui aujourd'hui, justement, grâce à l'arrivée d'autres dirigeants, parce qu'il faut être clair, hein, nous, comme vous a dit Sébastien, on est géré par une tutelle qui appartient au ministère de l'Industrie. Donc, si vous voulez, c'est pas le ministère de la Transition écologique, hein, comme je dis souvent à mes élèves, hein, regardez où est-ce que vous avez mis les pieds, quoi. Donc, nous, chez nous, c'est les sous. Donc, voilà, ça s'arrête là. Donc, venir essayer de changer un petit peu cette façon de penser, de dire, par rapport aux enjeux auxquels nous allons être confrontés, il va falloir changer de cap. Merci. Chose que j'essaie vraiment de faire comprendre à l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi, c'est changer de cap. Et changer de cap, ça veut dire aussi faire en sorte que nos élèves prennent conscience qu'il faut eux aussi qu'ils fassent ce changement de cap. C'est pas évident. C'est pas évident parce que pour que nos élèves prennent conscience de ça, il faut qu'ils aient des mentors qui leur amènent ça. Et les mentors, eh ben, c'est nous enseignants-chercheurs. Et nos enseignants-chercheurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi les former en fait à ça. Et leur faire comprendre en fait que parler de transition, dire eh bien, peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul modèle économique, peut-être que ça peut être intéressant lorsqu'on fait un projet d'innovation, eh bien, plutôt que de penser en euros, de penser peut-être en bilan carbone. En coût carbone, qu'est-ce que ça voudrait dire de changer complètement? Si par exemple tu disais ben, ce téléphone en coût carbone, c'est quoi le budget? Peut-être que j'irais pas l'acheter et que ça vaudrait pas 250 balles, par exemple. Non, mais où celui-là, hein, j'en ai deux. Alors, tu vois franchement, je bats tous les records. Donc, voilà. Et peut-être que ça nous permettrait de réfléchir autrement. Donc souvent, en fait, les élèves, quand on les accompagne, quand on les coach sur des projets de challenge, par exemple, on leur demande en fait, de faire un petit peu ce pas de côté. Et finalement, en fait, pour les rendre un petit peu beaucoup plus ouverts, en fait, sur ces ça n'a pas été un chemin facile, hein, parce que je peux vous dire que les premières fois où j'ai travaillé avec des élèves de troisième année, donc c'est quand même déjà des grands, hein, ils sont prêts à partir, et que je leur ai fait la fresque de la Renaissance écologique de Julien Dossier, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une fresque où vous allez regarder sur un territoire comment vous allez changer vos habitudes de consommation énergétique, de relation à la gouvernance, de rapport aux autres, etc. Eh bien, j'ai eu des élèves au départ qui me disaient « Mais qu'est-ce que l'école des mines d'Alès a à faire là-dedans ? Moi, je suis venue pour avoir un diplôme. Pour moi, ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est orienté et c'est... ça, c'est beaucoup trop orienté pour nous, quoi. Je ne vois pas pourquoi on doit apprendre ça. Et ça a mis un peu de temps, même chez eux, en fait, au niveau de ces élèves, de leur dire, ben non, en fait, par rapport au monde auquel vous allez être confrontés, regardez l'ADEME, en fait. L'ADEME a fait 3 scénarios. Eh bien, c'est ce que je vous demande un petit peu de regarder. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur ou l'autre, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. En revanche, j'ai le droit de vous donner tous les états de fait. Et après, vous, en fonction de vos valeurs, vous allez choisir quel chemin vous décidez de prendre. C'est exactement la même chose qu'on leur fait faire parce qu'on a introduit en fait dans des nouveaux cours en tronc commun. Donc alors là, tout le monde y passe, on n'est plus en UE élective. On a introduit du coup la biodiversité. Donc là, j'ai gagné un point, j'étais très contente. Donc tout le monde, quand ils passent à l'école des mines d'Alès chez nous maintenant, ils savent qu'est-ce que c'est que la biologie et du coup, quel est le lien entre eux et les écosystèmes. Et souvent, je leur dis, si vous prenez soin des écosystèmes, vous prenez soin de vous. Parce que je dis souvent, en fait, la Terre, elle est passée par plein de catas et elle est restée. Si nous, on a une cata, c'est nous, en fait, qui partons. Donc, quand on dit c'est pour sauver la planète, non, en fait, c'est pour sauver les humains. Voilà, c'est ça, le truc. La planète, en fait, je pense qu'elle n'a rien à faire. Donc, voilà. Donc, du coup, je me perds dans mes idées. Je vais y arriver. Et donc, du coup, après avoir introduit la biodiversité, on a introduit des cours assez particuliers qu'on appelle des controverses. Alors là, pareil... les enseignants m'ont dit ah, tu comprends, les controverses, c'est-à-dire c'est des débats, je suis un petit peu embêtée, le problème c'est que ça peut déraper et à la fin on peut finir par parler politique. Voilà, j'ai pas redit ce que je pensais au plus profond de moi, mais j'ai dit bah non, on peut très bien orienter un débat en disant le pour, le contre et à la fin la conclusion. En fait, l'idée c'est ça, c'est comment on mène un débat, comment on accueille la parole de l'autre, comment on essaie de se baser sur des faits et non des fake news, essayer de regarder le pour, le contre et par exemple, en controverse, on a analysé la problématique justement des mines de lithium. Par exemple, les mines en Allier, c'est quelque chose qu'on a posé en fait comme sujet à nos élèves et ils y passent une trentaine d'heures à réfléchir et ensuite à nous produire en fait un document de synthèse et de réflexion en fait. Eux, en tant qu'ingénieurs, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils devaient le faire? Est-ce qu'ils le feraient? S'ils le font, ils le feraient comment? Etc. etc. Et il faut qu'ils l'étayent. Donc, à la fin, on se dit, alors c'est sûr, c'est pas 300 heures de cours, c'est sûr, mais en tout cas, chez nous, quand ils passent par nous, on sait qu'à la fin des 3 années, ils auront eu cette ouverture d'esprit, cette capacité à aller chercher l'information, parce que moi, typiquement en biologie, je ne leur donne aucun cours. Ils vont chercher l'information. Et c'est eux qui font cours aux autres, en fait. Donc ça leur donne cette capacité d'aller chercher l'information, de la digérer, d'avoir des faits, et ensuite, en fonction de leurs valeurs, d'accord ou pas d'accord, en tout cas, ils prendront leurs décisions en état de cause, avec toutes les connaissances qu'ils ont. Et ça, je me dis, quand je rentre le soir, alors je suis d'accord, ils ne sont pas tous vent debout, hein, qu'on soit bien clair, il y a un bon pourcentage aujourd'hui qui ne souhaite plus avoir, par exemple, Total chez nous et autres. Hein. Clairement, là, il n'y a pas très longtemps, il y en a pas mal de chez nous qui ont signé une pétition contre Total qui était, je ne sais plus dans quoi. Ouais, c'est une conduite de gaz en Afrique. Certains, là, actuellement, là, il y a le cartel des mines qui a en fait
une rencontre sportive entre les différentes écoles des mines et des télécoms à Paris, où pareil, en fait, certains élèves l'ont boycotté parce qu'en fait, c'est Total qui a mis des sous pour pouvoir sponsoriser ce cartel. Donc voilà, nous avons quand même des élèves qui sont très conscients, qui sont engagés et qui veulent faire entendre leur voix. Et pour cela, souvent, on dit c'est super. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive souvent à les mettre dans notre besace et à aller chercher les autres. Pas qu'on veuille... j'ai pas le droit de dire, en fait, que je veux qu'ils fassent, qu'ils changent d'avis. Je n'ai pas le droit de dire ça, même si je voudrais qu'ils changent d'avis. Mais j'ai pas le droit. En revanche, ce que j'ai le droit de dire, c'est que je voudrais qu'ils aient toutes les cartes en main pour pouvoir prendre la meilleure décision pour eux et surtout pour les enfants à venir, quoi. Parce que souvent, je dis vous... Et je comprends hein, qu'ils soient éco-anxieux, qu'ils soient pas bien dans leur vie, que du coup, tous les samedis, ils se murchent. Ça, je comprends. Parce qu'effectivement, c'est difficile d'entendre que finalement, ils peuvent faire une vie d'adulte dans un monde où nous, en fait, on a clairement foutu la merde. Et en plus, on savait qu'on allait le faire parce que le rapport Meadows, il date quand même des années 72. Hein, donc, c'est pas depuis hier, quoi. Mais certains sont clairement conscients que le système dans lequel on vit est un système, de toute façon, voué à sa propre perte et à sa destruction. Ce système, c'est le capitalisme. On sait que c'est pas bon, que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, pour nous, en tout cas, nous, dirigeants qui essayons de former nos élèves et aussi former notre personnel, parce que c'est pas que les élèves, c'est aussi le personnel, puisque le personnel forme nos élèves, donc il faut que tout le monde soit transformé dans cette école, et ça, c'est mon job. C'est pour tenter, effectivement, de faire en sorte que dans cette école, nous ayons tous nos systèmes qui soient beaucoup plus robustes, quand bien même, on est malheureusement, parce qu'on est quand même géré par des indicateurs, quand bien même, on est quand même des indicateurs de performance. Voilà.
Merci. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on ait du temps pour avoir des questions-réponses après. Donc moi, je m'appelle Jérôme Cohen. J'ai monté une organisation qui s'appelle Engage depuis une dizaine d'années, qui travaille sur la sensibilisation, la formation, la transformation, à la fois de la société et des organisations. J'ai co-dirigé la Fraise du Climat pendant longtemps. Voilà, donc ça fait longtemps que je suis engagé sur ces questions-là. Et on va commencer l'interaction. Je vais prendre un exemple. Il y a personne qui travaille chez Coca, ici. Coca-Cola, le groupe. Non ? Non, ça va. Donc je peux y aller, a priori. Voilà. Non, non. Pour illustrer mon propos, en fait, plutôt qu'être trop théorique. Une petite question. À votre avis, ça, c'est valorisé combien Coca-Cola en bourse, quoi. Ça vaut combien, l'entreprise Coca-Cola? Combien? 1 000 milliards, t'es un peu trop. T'es beaucoup trop, même. Enfin, bon, c'est un exemple. On s'en fiche un peu du chiffre, mais quand même, en vitesse, là, à votre avis. 100 milliards? 60, ouais, c'est entre 70 et 100, ça value, mais tu as raison. Pardon, je t'ai tutoyé, mais voilà. Ouais, donc c'est exactement ça. Ah, je le mets comme ça, alors? Là, ça va mieux? Je sais pas comment faire, tu peux le baisser? Ouais, voilà, on va le baisser, alors, voilà. Voilà, que ce soit moins insupportable. À votre avis... ah bah oui, bah alors je parle plus, alors, comme vous voulez. Bon, à votre avis, aux États-Unis, c'est quoi le prix, le coût de l'obésité? Ça, marrant comme question, mais 60 milliards. Non, on est au-dessus de ça. Allez, en vitesse, là, à ma droite, là, combien, votre avis?
On est à
310, c'est plus 200 milliards, voilà, exactement. Disons que probablement, et je vais être en dessous de la réalité, le groupe Coca-Cola pèse au moins probablement 10% du coût de la santé aux États-Unis. Donc on a déjà 20 milliards là. Si on prend ça au niveau international, allez, je vais être super gentil avec le groupe Coca-Cola, je multiplie simplement par 5. On est déjà à 100 milliards de coûts sur la santé pour la société. Je continue mon quiz. À votre avis, pour faire une bouteille de Coca-Cola de 50 centilitres, vous savez, les bouteilles de 50 centilitres en plastique, là, on a besoin de combien de litres d'eau sur toute la chaîne de valeur de la production, hein, depuis la récolte, l'eau, la fabrication, le transport, etc. À votre avis? Beaucoup trop. Très bonne réponse à ma gauche. Allez, essayons d'être un poil précis. Vous avez compris, c'est un jeu. Hein, 10, ouais. 50, tout petit peu moins. 35,8 litres pour faire 50 centilitres de coca. Dernière question, puis après on arrêtera de jouer. Enfin non, on continuera mais différemment. À votre avis, toujours, il y a combien de bouteilles en plastique qui sont produites par an dans le monde? Dans le monde! Oh, si vous saviez! Non, c'est horrible, hein, vous allez voir, le chiffre est dingue en fait. À votre avis? 110 quoi? 110 milliards à ma droite. 600 milliards. Monsieur a presque triché, je le suppose, non ? Non, c'est un peu moins. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 525 milliards de bouteilles en plastique produites chaque année et donc achetées par nous. Voilà. Là-dedans, le groupe Coca-Cola est responsable de 25%. Donc ça fait 140, j'ai pas calculé, mais ça fait à peu près ça, milliards de bouteilles produites par le groupe Coca-Cola et donc vendues puis achetées. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, le groupe Coca-Cola, à travers le monde, favorise l'emploi. On peut pas le nier. Grâce à ça, il y a une sorte de développement économique, etc., etc. Et puis, on a peut-être oublié quelque chose, tiens, dans mon raisonnement, c'est la question climatique. Voilà. Combien le groupe Coca-Cola, toute sa production, déverse du carbone sur le monde, et ce, depuis la naissance du groupe au 19e. Vous savez que le carbone, ça reste dans l'atmosphère. Maintenant, je vous repose la question, c'est très drôle, à votre avis, combien vaut le groupe Coca-Cola? On a dit tout à l'heure à peu près 100 milliards. En tout cas, voilà. À votre avis, ça vaut combien du coup? Zéro, en face de moi. Ah, c'est négatif, donc enfin, ils ont une dette envers nous. Bon, voilà, bon, c'est une petite, un petit jeu pour démontrer en fait que je vais parler très rapidement d'entreprises robustes, restauratrices, tout ce que vous voulez, on peut l'appeler comme on veut. Le problème aussi, à la base, c'est de créer une société ou une économie restauratrice, une économie robuste, une économie respectueuse du vivant, etc., etc. Et donc, il va falloir aussi, évidemment, transformer les entreprises, mais transformer notre modèle économique. Et ça s'appelle la triple comptabilité. C'est-à-dire que tant qu'on ne change pas notre façon de valoriser les modèles économiques ou les entreprises ou la bourse en général, eh bien, je pense qu'on n'arrivera à rien. Donc ça, c'est pour moi le premier process, le premier procédé, le premier principe même, c'est que comptons ce qui compte et essayons d'évaluer quelle est la valeur réelle de l'économie autour de nous. Évidemment, si on partait de ce principe-là, les entreprises qui sont survalorisées aujourd'hui ne le seraient pas du tout demain. Maintenant, la question du pourquoi, tu l'as évoqué aussi, on est évidemment d'accord, le climat, la biodiversité, tout le stress qu'on génère par le travail, etc., le vivant humain et non humain. Mais comment on arrive à transformer tout ça? Comment, éventuellement, on arrive à transformer, si c'est possible, le groupe Coca-Cola? Pour moi, il y a trois intensités de transformation. C'est essayer de réduire l'impact qu'ont les entreprises en termes de climat, en termes d'environnement, donc on réduit l'impact. Deux, tu en as... Ben, il n'est plus là. Vous ne voulez pas m'écouter, ça ne l'intéresse pas. Deuxième, c'est essayer de passer à une autre forme d'économie, à d'autres modèles d'affaires. Donc, par exemple, l'économie de la fonctionnalité. Une voiture, elle est utilisée à peu près moins même de 10% de son temps. Donc, on pourrait évidemment les partager, avoir une autre utilisation. Et ça réduirait évidemment l'impact ou la dépendance des entreprises envers le vivant et l'impact qu'elles ont sur le climat. Et puis, troisième dimension, c'est aller encore plus loin. C'est la redirection écologique. Si mon activité, je pense comme celle de Coca-Cola, n'arrive pas à être pas trop dérangeante, voire éventuellement neutre, bon, ça c'est un peu peut-être une utopie, eh bien, il y a des activités qu'on doit arrêter. Donc on doit choisir ce qui, à l'intérieur d'une entreprise ou une entreprise elle-même, accepte de faire, accepte de produire ou change, fait évoluer son activité ou la ferme de façon massive. Maintenant, ces trois étapes, la question aussi du comment est fondamentale, c'est comment on arrive à faire bousser ces organisations. Et pour moi, une organisation, alors moi je n'appelle pas robuste, je suis désolé, je l'appelle restauratrice, mais peu importe, on s'en fiche, c'est comment on arrive à la faire bouger, ou quels sont ses principes de base. Pour moi, il y en a trois fondamentaux, je m'arrêterai là. Un, c'est une entreprise qui est apprenante. Ce qui est très difficile quand on bosse avec ces boîtes, petites ou pas d'ailleurs, c'est qu'on est obligé de faire rentrer dans la tête des dirigeants et dans la tête de tous les salariés des concepts, des notions qu'ils n'ont pas, qu'on leur a pas enseigné. Quelqu'un qui dirige une entreprise, qui est directeur marketing, il n'a pas au départ, il y a 20 ans, il n'allait pas connaître les questions de biodiversité, de climat ou autre. Donc comment on arrive déjà, par de la sensibilisation, par de la formation, à faire que la majorité de ces employés, ces dirigeants, deviennent conscients et apprennent ces questions, deviennent un peu plus sachants autour de toutes ces questions, et c'est extrêmement difficile. Pour moi, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, à mon avis, ces entreprises doivent devenir participatives. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer chez les entreprises si on ne s'adresse qu'aux dirigeants. Pour moi, c'est un travail totalement collectif dans tous les niveaux hiérarchiques, dans tous les métiers, dans toutes les spécificités, dans toutes les filiales. Il faut que ce soit un travail commun qui fasse évoluer ces organisations, donc apporter finalement de la connaissance et travailler à la transformation avec l'ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique et leur métier, à l'intérieur d'un groupe. C'est fondamental. Vous savez, la moyenne, la durée de vie d'un dirigeant à la tête d'une entreprise du CAC 40, c'est 18 mois. Donc, si vous arrivez à convaincre un dirigeant, mais que toute l'entreprise n'est pas concernée par ce jugement, si ce jugement n'est pas approprié, etc., mais je ne vais pas développer trop, évidemment, on ne transforme rien, finalement. La machine se remet à mal fonctionner assez vite. Et puis, troisième élément pour moi fondamental, c'est que ça doit être une organisation ouverte. C'est-à-dire que les organisations doivent travailler avec peut-être des concurrents, mais en tout cas avec leur écosystème, c'est-à-dire avec des experts qui vont à l'intérieur de l'entreprise qui, avant, n'y figuraient pas. Avant, il n'y avait pas de géologues ou d'experts de la biodiversité dans les entreprises. Ça, c'est fondamental. Deux, avec leur écosystème proche, c'est-à-dire une ONG locale, avec une mairie, avec des collectivités. Si l'entreprise qui est devenue finalement, d'une certaine façon, pas entrer dans le débat, mais assez plus politique en fait sur son territoire, eh bien la transformation ne peut pas être durable. C'est écosystémiquement parlant, en quelque sorte, qu'une entreprise peut devenir robuste, restauratrice, respectueuse, comme on veut. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est-à-dire comment on arrive à faire que Coca-Cola devienne, ou s'arrête, ou devienne vertueux finalement, et ça passe par des étapes, ça passe par des principes, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette évolution est loin d'être gagnée, parce que les entreprises ne changeront pas, j'y crois pas vraiment, par éthique. Elles changeront parce qu'elles seront obligées de le faire, parce qu'elles seront poussées à le faire, soit en intérieur, par de la pression interne de leurs salariés, la pression externe des citoyens. Si elles sont conscientes des risques qu'elles ont, qu'elles vont affronter dans les années qui viennent, si elles ne changent pas. Donc je pense que c'est d'ailleurs du coup une responsabilité partagée que nous avons pour vous aller faire atténuer ou renverser ce qu'on appelait à une époque le triangle de l'inaction, c'est-à-dire que les citoyens n'étaient pas formés jusqu'à quelques années, n'étaient pas vraiment conscients, les politiques n'avaient pas beaucoup intérêt à bouger parce que les citoyens continuaient à voter pour eux alors qu'ils ne poussaient pas ces sujets-là, et le monde économique, lui, bien, tant qu'il arrivait à vendre ses produits aux citoyens non formés, qui n'avaient pas la pression des politiques, il n'avait pas intérêt à bouger. Donc c'est en fait ce triangle de l'inaction qu'il faut faire transformer en vortex de la régénération ou du vivant. Voilà. Et c'est ça, ce vortex qu'on essaye de faire monter, mais c'est très difficile. Voilà. Mais on va y arriver. Alors, tant de questions-réponses, non? Ah oui, voilà. Ah. Attends. Si, il va prêt.
Ça marche? Ouais. Vous avez employé un tas de concepts qui sont un peu flous pour moi. Mais tout à l'heure, la personne de l'École des Mines parlait de réemploi. J'aurais bien aimé qu'elle précise.
Alors, est-ce qu'elle est là, la personne des... Elle n'est pas là. Non.
En tout cas, les personnes qui sont étudiants à l'École des Mines, en général, c'est financé par des industries, etc. Donc, il faut que ça rapporte. Et donc, moi, ça me fait penser qu'on parle de réemploi, c'est-à-dire de sortir d'un mode de consommation jetable, et en tout cas d'avoir des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Encore faut-il penser la notion de nécessité des choses, mais ça me fait penser à la décroissance. C'est-à-dire que il y a des gens qui critiquent les écologistes en disant que vous voulez retourner à la bougie, on leur dit. Mais en quelque sorte, d'après ce que je comprends moi, c'est que c'est la seule solution. Tant qu'on est dans un système productiviste où il y a une histoire de croissance et de bénéfices, on ne sort pas de ça. Après, comment... moi, je pense que... Ce qui serait désirable, ce serait un système où on travaille pour le bien commun. Donc ça renvoie à la notion de nécessité et d'intérêt dans une notion de valeur, de bien-être et de respect de l'environnement. Mais ça, c'est sortir complètement d'une propagande et d'une incitation. Alors tout à l'heure, il parlait des étudiants, vous parlez des étudiants... après le bac, donc, qui commence à interroger ces notions-là, tout en disant que vous ne voulez pas les influencer. Mais l'école est neutre à ce niveau-là. S'il faut attendre de passer le bac pour se poser des questions sur la planète, enfin bon... Donc, il y a un roman de Barjavec qui s'appelle Ravage, et sans raconter l'histoire, bon, en gros, à un moment donné, tout s'effondre. Et à partir de là... non, mais je me trompe. Ce que je veux dire, c'est que si on pense au bien commun, ce serait de faire fonctionner les outils de production et les services publics et ce qui est de l'ordre du bien commun, que ce qui est utile et vertueux. Donc on pourrait séparer l'économie de qui concerne ce qui est vertueux et qui concerne le bien commun. Et on ne serait pas dans une économie de marché finalement. Mais il y a un penseur qui s'appelle François Partant qui avait une proposition, c'était de séparer les revenus de la production des revenus d'existence. Donc des citoyens auraient un revenu d'existence et ils auraient une fonction, mais leur fonction ne serait pas directement liée à leur utilité et à leur implication factuelle dans la société, travailler avec des personnes âgées, l'environnement. Mais du coup, ça veut dire collectivement, on ne fait fonctionner que ce qui est bon et qui n'a pas d'incidence négative et délétère. Voilà.
Merci Olivier. Voilà, Olivier va te répondre.
Ah, juste, en fait, je suis d'accord, il y a un bon exemple de bien commun, c'est les terrasses. Ce qu'ont fait Adrien, Edith et le conseil municipal, c'est exactement dans cet esprit-là. Mais non, mais c'est vrai. Et c'est exactement dans cet esprit-là, en plus, enfin, Edith qui a beaucoup porté ce projet-là, Adrien, enfin, oui, c'est cette idée de bien commun et de sortir d'une espèce de mécanique de marché, je pense qu'on est en plein dedans. Donc là, on a une belle illustration, je trouve, de bien commun qui est en train de naître. Voilà, c'était juste pour dire.
Vas-y, puis après, moi, je dirais deux, trois mots. Ouais.
Alors, il y avait énormément de choses. Alors, peut-être que je n'arriverai pas à répondre dans l'ordre, mais je vais tenter. Alors, déjà, nos élèves à l'école des mines, en fait, nous n'avons pas d'industrie en fait qui nous paye la formation des élèves. L'école des mines.
Ils ont un salaire, ils continuent à être étudiants, mais ils commencent à.
Alors ça c'est pour les apprentis. Les élèves apprentis, effectivement, sont des élèves salariés. Mais ça change. Donc là, il n'y a pas. L'apprentissage est très bien. On a maintenant plus de. Par an, on rentre 190 élèves apprentis contre 120 étudiants d'ingénieurs généralistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en apprentissage. Donc en fait, nous sommes une école publique, une école d'État. Il faut savoir que c'est nos impôts qui payons la formation de ces élèves. Donc de ce fait, je peux me permettre de leur dire, moi, selon moi, ce qui est bien, c'est ça. Je leur donne mon avis. Je suis parfaitement d'accord avec vous. En revanche, ma déontologie en tant qu'enseignant-chercheur du public, je n'ai pas le droit de leur dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je ne peux pas ». En revanche, ce que je dois faire, c'est leur donner l'ensemble du panel de ce qui existe. Il est clair que ben, quand tu es comme ça et qu'ils entendent un petit peu ce que tu penses, forcément tu vas un peu les orienter, ça c'est clair, on les oriente. Mais on ne peut pas leur dire « ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Ce n'est pas légal, en fait. On peut juste leur donner des faits. Et ensuite, leur donner des billes, des outils, pour leur dire, écoutez, vous n'êtes pas là pour faire seulement. Ce n'est pas parce qu'on a dit que vous étiez des ingénieurs, vous êtes là pour faire comme des benets. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est que vous puissiez avoir cet esprit critique. Moi, c'est souvent ça que je dis. C'est-à-dire qu'en biologie, je ne leur donne que 80 heures de cours. 80 heures en bio, quand la bio remonte de la troisième, vous ne savez même plus qu'est-ce que c'est qu'une cellule, très simplement, c'est rien. Je leur dis, vous ne serez jamais un spécialiste de la biologie, ce n'est pas vrai. En revanche, je vous donnerai les clés, les outils pour pouvoir débattre
avec par exemple un chef qui vous dira « Ah mais non, en fait, ce truc-là, tu vas me le faire, mais tu vas aller couper tel arbre et tout. » Et moi, ce que je veux, c'est que vous ayez ces outils pour pouvoir dire « Ben non, là, je ne suis pas forcément d'accord. » Parce que je sais qu'un écosystème, c'est important et que si vous enlevez l'arbre, ben, du coup, il y aura beaucoup plus de sécheresse par rapport à là où on est. Et du coup, on va descendre de 0,5 degrés en termes de température. Le garder, ce serait peut-être une meilleure solution parce que ça nous donnera un nombre de l'ombre. Et comme ça, moi, en tant que spécialiste du bâtiment durable, eh bien, ça va pouvoir m'apporter un peu plus de fraîcheur l'été, par exemple. En fait, c'est ça en fait, que je leur donne comme technique, en fait. Mais oui, quelque part, on les oriente. Et c'est pour ça que mes enseignants-chercheurs, lorsque je viens les former à introduire cette transition écologique et la responsabilité sociétale au niveau des cours, parce que je les forme à ça, leur question, c'est de me dire, attention, il ne faut pas que lorsqu'on fasse un débat, que ça tourne aux politiques. Je dis, ça, vous n'y pouvez rien. Et souvent, effectivement, et j'en suis consciente, et je sais que je n'en ai pas forcément le droit, c'est que je leur dis, dans tous les cas, la manière même dont vous allez construire votre cours est politique pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de politique, parce que je suis quelqu'un d'engagé sur le territoire, je suis élue, en fait. Donc je sais que toutes les, en fait, selon moi, tous les. Donc ça, c'est pour la première réponse. Sur le réemploi, en fait, l'idée, c'était de se dire qu'aujourd'hui, nos élèves, on va leur faire se poser la question, justement, pas pour se dire, est-ce que ce truc-là, il faut vraiment que je le développe ? Et se faire poser la question de service, d'où la notion d'économie de la fonctionnalité. On va penser à un objet, non pas sur l'objet lui-même, qu'est-ce qu'il va faire, mais plutôt du service rendu. Et quand on part du service, en fait, on va peut-être pas forcément développer la même chose ou le faire de la même manière. Et on va leur dire, justement, eh bien, il faut plus aujourd'hui que les choses ne durent que 5 ans. Il faut que ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Et d'où, en fait, cette nécessité de pouvoir transformer, mais ça, c'est fondamental, et ça, je suis désolée, pour le coup, c'est aussi politique, de transformer notre façon même de penser le coût de la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être sur chaîne, tous les 5 minutes, il y a des nouvelles fringues. Ça coûte 2 francs 6 sous, mais ça leur rapporte des milliards. Et ils s'en fichent, en fait, que ce machin, votre gamine de 15 ans ne le met que 2 fois et qu'après, elle le met à la poubelle. Et que quand ça passe à la poubelle, après, c'est des microplastiques, que ça fait de la pollution, etc. Le penser en disant, j'ai un jean, ça me coûte un peu plus cher, c'est vrai, 200 euros, mais je sais que je l'aurai pour 15 ans. Ça, aujourd'hui, en fait, cette pensée-là, le plus souvent, comme on est dans le monde de la consommation, avec ses envies, et ça, c'est vrai, je le vois, parce que moi, je suis maman de 2 adolescents, le monde des réseaux sociaux vous donne envie de consommer, d'aller avoir ce que l'autre a à côté, quoi. Et c'est clair, c'est une envie. Et je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, on n'aime plus parler de décroissance. À l'Institut Minitélécom, on avait fait venir quelqu'un pour travailler avec nos enseignants-chercheurs sur les notions de décroissance. Ça n'a absolument pas plu, parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas parler de ce mot-là. C'est un mot tabou. Bien parce que ça veut dire, dans notre ministère de Bercy, décroissance veut dire plus rentrée d'argent. C'est clair. Voilà, oui, mais encore une fois, je suis dans le ministère Bercy. Donc, pour eux, c'est très compliqué. Moi, mon prochain challenge au niveau du ministère, c'est d'essayer de rencontrer quelqu'un avec qui je puisse échanger et lui faire admettre, en fait, que d'aller sur ces notions-là, si on n'y va pas maintenant, on peut être perdu. Et de lui sortir cette phrase de Godard qui est « c'est la marche qui tient la page ». Et oui, souvent, j'ai expliqué ça à ma directrice de l'Institut Minitélécom, parce que j'ai ce rôle de directrice des transitions à Alès, mais je l'ai aussi pour l'ensemble de toutes les écoles de l'Institut Minitélécom de France. J'ai essayé de lui expliquer ma feuille de route en disant « voilà, on va former ». On va former nos élèves, on va former nos enseignants-chercheurs, on va former notre staff. On va être aussi des éco-campus. On va faire de la recherche qui répond à ces enjeux-là, mais on va même penser notre recherche en termes d'impact, c'est-à-dire moi qui suis spécialiste du développement de biocapteurs, est-ce que le petit objet que j'ai développé en utilisant des métaux rares parce qu'il faut un système électronique pour aller détecter du 0,001 nanogramme par litre de glyphosate dans l'eau, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En fait, est-ce que quelque part je n'ai pas plus impacté mon environnement en voulant développer ça que le bien que je rapporte à développer cet outil ? Voilà. Et quand je lui ai expliqué qu'aujourd'hui il fallait peut-être commencer à penser nos incubateurs avec des entreprises à mission, avec des entreprises qui font de la perméentreprise, etc., elle a dit « ouais, tu comprends, Ingrid, quand même les entreprises à mission maintenant, certaines mettent la clé sous la porte parce qu'effectivement elles refusent de prendre certains contrats ». Et du coup, elles ont des sous en moins. Je dis oui, peut-être. Mais si on n'en parle pas maintenant, demain, on ne sera pas prêt à le faire.
Donc il faut aller là-dessus, en fait. Il faut aller là-dessus. Alors après, je ne sais pas si je répondrai à toutes vos questions. J'ai essayé de répondre à le réemploi, le FC.
Alors on va essayer de voir s'il y a d'autres questions. Je voulais juste dire que sur la croissance et la décroissance, il y a un concept qui est intéressant, c'est la croissance, et c'est Morin qui avait développé ça, c'est-à-dire que, quelles sont les priorités. Et tout ça ne dépend finalement de si on arrive à mesurer. Pour faire des choix, il faut mesurer ce qu'est la croissance et ce qui y contribue. Si on ne mesure pas, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Question.
Non, je fais un peu de modération, 10 secondes, parce qu'en fait j'ai vu les mains se lever. Excuse-moi Patrick.
Vas-y.
Je donne dans l'ordre des... dans l'ordre des demandes. Juste pour l'introduire, parce qu'il nous a fait le plaisir de nous rejoindre cet après-midi, Philippe Dever, qui est shifter Occitanie, qui nous a rejoint, et c'est grâce à lui que la commune de Saint-Paul-la-Cosse est invitée sur le quorum à Montpellier le 7 et le 8 juin à l'université d'été. Voilà, donc comme ça s'est emballé, que j'étais avec les techniciens de l'autre côté, j'ai pas pu faire l'introduction avec vous, je le cite et il a une question pour vous.
Oui, notre sujet de prédilection, c'est le carbone, bien sûr, hein, vous le savez. Ce qui ne nous empêche pas de nous intéresser à d'autres sujets. La robustesse est un sujet très intéressant. Ça m'amène à une question et un commentaire. La question, c'est, dans le concept de robustesse, il me semble qu'il y a une notion de collectif. On a été biberonné à l'individualisme depuis des décennies. Et j'ai pas trop entendu ça, donc peut-être que j'ai pas été assez attentif. Il me semble qu'il faut insister sur le fait qu'il faut travailler davantage en collectif maintenant. Le commentaire, c'est qu'on voit bien que la robustesse, c'est un concept qui amène des besoins de sensibilisation, de formation, et vous en avez tous témoigné avec des mots un peu différents ou des concepts un peu différents. Donc là, on est sur le qualitatif. On doit évoluer, et la robustesse, c'est intéressant parce que ça nous aide à réfléchir pour savoir comment faire. Je voudrais dire qu'il y a aussi des aspects quantitatifs.
Le shifter, il ne peut pas s'en empêcher.
Le Shift Project a fait des études qui montrent que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il y a des évolutions en termes d'emploi très importantes d'un secteur économique à l'autre. Donc il ne faut pas oublier cette donnée-là. On a besoin de moins d'emplois demain, normalement, si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, moins d'emplois en automobile, davantage dans le vélo, moins en construction de bâtiments, davantage de rénovation. Donc voilà, à cet aspect qualitatif qui est très important, il faut aussi penser une difficulté supplémentaire qui est la quantité d'emplois qui va varier d'un secteur économique à l'autre. Il faut s'y préparer, c'est la reconversion d'entreprise, donc des reconversions des hommes et des femmes, et c'est pas derrière les entreprises, il y a des hommes et des femmes bien sûr, et souvent quand une entreprise ferme, c'est un déchirement évidemment pour les travailleurs et les travailleuses, et donc faudra bien intégrer ça pour l'avenir.
Ouais, juste sur la robustesse, effectivement, la notion de collectif, elle est centrale. C'est même le pivot, en fait. Et je dirais que c'est même la raison pour laquelle, quand on est arrivé ici avec Jean-Christophe et qu'on s'est dit « Ah ouais, tiens, il se passe un truc », le point de départ ici, c'était le tiers-lieu. C'est cet endroit-là. C'est pour ça que je rebondissais sur la notion sur les terrasses et la notion de bien commun. C'est qu'effectivement, s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de robustesse, en fait. C'est presque une condition première. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'interaction, d'hétérogénéité, j'ai pas parlé aussi de transparence et de collégialité, mais ça en fait partie. C'est vrai que c'est clairement l'élément pivot de n'importe quelle organisation humaine, c'est qu'elle soit capable de construire un collectif. Par contre, des collectifs, il y en a plein. J'ai envie de parler de Coca-Cola, c'est un collectif, hein. Une entreprise, c'est un collectif. Donc c'est pas non plus n'importe quel collectif. En tout cas, la notion de collectif suffit pas. Je dirais que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais par contre, c'est effectivement un élément central.
Oui, je dirais, si je peux rebondir rapidement, c'est une notion de collectif interne et externe, donc au niveau à l'interne de l'organisation. Mais après, c'est toute une gouvernance qu'il faut repenser et pour avoir des modèles qui soient émergents. Donc la direction, si on parle d'organisation, la direction garde le rôle de la stratégique, en fait, ça faut pas lui prêter, mais tout ce qui est la il faut que cette connaissance, ces nouveaux modèles soient totalement appropriés par l'ensemble des organisations, et on voit que souvent les idées, elles naissent à l'interstice entre l'opérationnel et le stratégique. Donc il faut faire travailler ensemble ceux qui ont des responsabilités très opérationnelles et ceux qui ont des objectifs ou des responsabilités plus stratégiques. Et c'est à ce croisement-là, c'est à ce moment de fécond qu'on pourra inventer des solutions qui sont pérennes, robustes et durables.
Oui,
Ça y est, je sais à qui tu me fais penser, à Sean Penn. Alors, une petite publicité rapide pour vous dire, ce soir, 21h, qu'est-ce que je fais ? Mais voyons, Michel, ce soir, c'est Mange pas le micro, à 21h, une super soirée karaoké. Et je passe la parole à Patrick.
À moi ?
Non, pas à toi, parce que tu n'as même pas de smartphone. Nulos, anarcho, rien du tout. Tiens.
Oui, j'ai bien entendu, vous êtes dans le cercle, dans les cycles vertueux, j'entends bien tout ce que vous avez dit. Mais être vertueux tout seul, c'est-à-dire 67 millions d'habitants, c'est bien, mais ça ne sauvera pas la planète. Le grand problème, c'est qu'il faudrait pouvoir convaincre ceux qui représentent aujourd'hui nous sommes dans un mondialisme. Vous avez parlé du capitalisme, c'est une réalité, hélas, qui est très présente. Le capitalisme est présent partout aujourd'hui, y compris en Chine, même si la Chine se dit communiste. Le problème, il est là. C'est que votre pensée, elle est tout à fait fondée. Mais si elle reste au niveau hexagonal, ou même européen, on n'en sortira pas.
Alors, je peux vous répondre
J'ai pas fini.
Ah bon ? Ouais, ben moi j'ai envie qu'il ait fini, là, pour qu'on puisse répondre.
Vous parlez beaucoup, hein. Celui qui parle trop pose problème, hein. Il y a de l'énergie qui se dépense à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que moi je suis allé en Inde, ces pays-là, aujourd'hui, ne sont pas prêts à entendre votre discours. Pas prêts du tout. Bon, la majorité. Bon, effectivement, il y a certains intellectuels, certains penseurs.
Non, j'ai monté une fille à langage en Inde. Ils font beaucoup de choses, hein. Faut pas croire qu'ils font rien.
Oui, peut-être, mais les Chinois et les Indiens, quand même, aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils sont très vertueux au niveau de l'économie.
Réalité. Là, il faut. Je suis pas d'accord avec vous. Après, tu veux répondre avant ? Non, je suis pas d'accord avec vous pour deux choses. Un, on a parlé beaucoup de sujets environnementaux. Okay. L'un des gros problèmes, c'est l'effondrement de la biodiversité. Le problème de la biodiversité, il ne se passe pas en Chine, en Inde, aux États-Unis, où vous voulez, il se passe ici. Donc déjà, faisons, notamment sur le problème de la biodiversité, agissons ici, assisons, et ce qu'on fait ici, changera l'état de la biodiversité en France, et ça, l'action locale est absolument fondamentale. Ensuite, prenons un autre exemple, l'exemple du climat. Bon, c'est vrai que la France est quand même relativement, avec 150 bémols, avancée sur ce sujet. Savez-vous combien il y a d'entreprises du CAC 40 qui sont alignées sur l'objectif de 2 degrés ? Je ne parle même pas de 1,5, de 2 degrés aujourd'hui, sur les 40 qui font le CAC 40. 4, 10%. Donc ça veut dire qu'on a quand même des choses à faire au niveau de notre propre économie. Et je dirais que, après, vous savez, on parle beaucoup d'anthropocène, mais je m'arrêterai là, parce que je parle trop. On peut aussi parler de capitalocène. C'est quand on mesure l'impact carbone par habitant, je suis désolé, l'Europe et la France ne sont pas mieux que la Chine ou l'Inde. Donc c'est une... Alors, j'ai pas compris, mais pour moi, c'est une question d'impact aussi. Il y a plein de façons de mesurer l'impact de chacun. Oui.
C'est que la problématique, elle est partout. Quand vous dites la biodiversité en France, oui, mais il y a le problème de biodiversité en Chine aussi, certainement, au Japon. Ouais. Je présume, on n'est pas tout seul à avoir un problème de biodiversité. Et ce que je dis, c'est que à partir du moment où nous sommes vertueux, très bien, il faut y aller. Je suis tout à fait d'accord. Bon, mais il n'en demeure pas moins que la problématique générale reste. C'est que nous sommes tout petits, y compris l'Europe, par rapport à une problématique mondiale. Donc c'est vrai qu'il faut faire notre travail, mais c'est pas suffisant du tout.
Ah, on est d'accord.
Merci Patrick. La poutre dans l'œil du... qui avait levé la main ? Ah, t'as beaucoup parlé toi. Ouais. Patrick aussi ? Hey, c'est une soirée Patrick ! Vive les Patrick ! N'oubliez pas 21h, karaoké géant. Appelez vos copains, bisous, 06 15 32 28 30. Bisous.
Bonsoir, j'ai juste simplement une question pratique. quand on parle d'indicateurs, ce sont des éléments de gestion de la performance. Comment le modèle de la robustesse se fait sans indicateurs?
Alors, nous, on ne dit pas qu'il faut plus d'indicateurs, on dit qu'il en faut beaucoup moins, mais beaucoup, beaucoup moins. Et que là, par exemple, je suis en train de bosser avec des boîtes justement pour mettre en place cette question de la robustesse. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est OK, quelques indicateurs, parce qu'à un moment donné, quand tu pilotes, tu as besoin de savoir vers où tu vas, donc quelques indicateurs. Par contre, accepte que derrière, tu vas plutôt chercher des indices de robustesse a posteriori. Donc plutôt que de définir des indicateurs auxquels il faut se conformer, relativisons ces indicateurs et allons chercher des indices. Et le problème des indicateurs, c'est que à un moment donné, ils nous renvoient à ce qu'on appelle la loi de Goddard. Hein, la loi de Goddard, c'est une loi qui dit quand une mesure devient l'objectif, c'est que c'est plus une bonne mesure. Et le problème des indicateurs, c'est qu'en fait, on finit par ne suivre que les indicateurs, avec tous les angles morts qu'il y a derrière. Quelque part, en plus, on finit par s'étouffer un peu sous ces indicateurs. Et donc, on dit juste, bah, OK, quelques indicateurs. Donc, revenons un peu en arrière et réduisons le nombre d'indicateurs. Imaginons des indices au fil de l'eau qui nous alertent ou qui nous indiquent que là, il est peut-être en train de se passer quelque chose en termes de robustesse, et ça devrait à peu près fonctionner. Et c'est ce qui permettra aussi de laisser un peu de jeu dans les rouages, là où l'indicateur peut avoir tendance parfois un peu à trop resserrer. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre...
Alors, bonjour. Moi, j'ai une petite... une grande question. Juste une petite réponse sur le problème qu'on est petit, qu'on montre l'exemple. Enfin, on peut montrer l'exemple au gros. Et puis, je pense à la petite fable du rat et du lion. Et ça m'a... Mais je peux parler.
Mais sans micro. Alors, la voix, sinon. Oui, alors, c'est bon.
Tu vois ? Voilà. Et la Chine est le premier pays en tête pour les évolutions, toute la technologie moderne, écologique, et a carrément développé des villes limite vertueuses. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment on peut passer d'un système à l'autre, parce qu'on critique souvent capitaliste. On propose des solutions, robustesse, résilience. Mais comment on peut passer à l'autre sans, ce changement? Voilà, c'est ça qui me paraît.
Je vais une réponse hyper courte. Il y avait un système qui était, enfin, un modèle. Alors là, je suis pas sûr que c'est des modèles qu'on va développer, mais il y avait un modèle qui était devenu presque ringard dans les années 80-90. C'était le modèle mutualiste. Je trouve qu'on bosse beaucoup avec des mutualistes, et je trouve que leur façon d'être organisée à la fois dans le capital et puis la gouvernance politique est très intéressant. Donc il y a peut-être des formes d'inspiration. En plus, il n'y a pas de rémunération du capital comme c'est dans les entreprises purement capitalistes. Donc il y a probablement une forme d'inspiration qu'il faut aller de chercher de ce côté-là. Après, je ne suis pas sûr qu'on passera à l'autre système en absolue douceur. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.
Et puis moi, je voudrais juste ajouter, en fait, sur cette question de la robustesse, à la base, on essaie de faire en sorte que ce soit pas du tout idéologique. D'abord, qui serait pour dire que ça, c'est mieux que ça ? Personne. Donc nous, ce qu'on dit simplement aussi, c'est juste que le monde est en train de devenir de plus en plus fluctuant. Il n'y a pas trop le choix. Et donc le gars peut être très capitaliste et à fond et très libéral. À un moment donné, s'il est un peu raisonnable et un peu réveillé, il va se dire ouais, effectivement, je risque à trop sophistiquer mon modèle et à trop le tendre pour qu'il soit encore plus performant, je risque de le mettre dans le mur. Donc quelque part, c'est même pas forcément le bien ou le mal, c'est juste se dire OK, j'ai peut-être intérêt à bifurquer. Alors après, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai parlé de capsule de robustesse, en disant, vas-y, t'en as déjà un peu, mets-en un peu plus. Et il n'y a pas de grand soir, mais des petits matins, ça participe de cette transition. Mais avec cette idée que c'est pas forcément idéologique à la base, même si j'ai des valeurs et des convictions et que je te rejoins dans ce que tu disais, évidemment.
Mais comment faire quand les autres communautés ne suivent pas? Et comment marcher avec des systèmes qui seraient complètement différents? Si par exemple, nous, je reprends la France, on fait « Ouais, on a fini du capitalisme, on change de système. » Oui, mais comme tout autour, voilà. C'est capitaliste. Comment on fait? Voilà. Donc, non, Non, vous allez. Excusez-moi, un petit côté. Je pense qu'il faut. Mais voilà, comment on passe la bascule.
Bah déjà, il y a. Non, parce que. Il y a aussi cette idée quand même d'hétérogénéité qui est intéressante. Par exemple, on parlait d'électrique. Si tout le monde passe à l'électrique, c'est une absurdité à 38 tonnes qui fait Paris-Varsovie en électrique, c'est une aberration écologique. Donc j'ai intérêt aussi à ce que 38 tonnes, il roule à l'essence. Et donc, quelque part, on peut aussi se poser la question de, ouais, c'est peut-être pas mal qu'il y ait un peu d'hétérogénéité et qu'il y ait ces tensions-là, et qu'il n'y ait pas qu'on soit dans des dialectiques, comme on dit. Qu'il y ait des, et je crois que de ce point de vue-là, ça peut permettre déjà d'être un peu optimiste. Ouais. Rien que si par exemple, Saint-Paul-Lacoste devient et est en train de devenir une commune robuste, et que je sais pas où il y a une commune qui au contraire qui prend le contre-pied, bah ça va être rigolo, ça va être marrant, ça va créer du conflit, de la tension, de la discussion, puis probablement si les deux communes sont assez intelligentes, il peut se passer des choses entre elles, donc c'est peut-être pas si mal.
Et juste pour compléter sur cette notion de comment est-ce qu'on arrive à faire passer d'un système à l'autre, en fait, ce sera pas, c'est pas facile. Par exemple, je vois, j'ai échangé avec les sociétés dont je vous ai parlé, les permis entreprises, qui sont quand même une forme de gouvernance très particulière pour pouvoir mener une société. Et c'est une grosse société hein, qui a d'ailleurs fait le bouquin sur la permis entreprise. Des sociétés à mission aussi, où effectivement, pour elles, en ce moment, avec au niveau économique, c'est compliqué pour elles de survivre parce qu'elles refusent en fait de faire certains contrats qui ne sont pas dans leurs valeurs. Donc elles essaient de tenir bon, c'est vrai. Donc certaines se disent, bon voilà, on se pose la question, est-ce qu'on revient pas en arrière? Bon, finalement, non, pour avoir échangé avec les personnes qui sont dans ces sociétés, elles ont choisi ces sociétés pour leurs valeurs. Donc elles vont rester et elles vont soutenir en fait leur société avec ces valeurs très particulières. Mais c'est pas pour autant que Vinci ou Total va devenir demain des entreprises à mission, des PME entreprises. Sûrement pas. En revanche, moi, en tant que biologiste, je dirais qu'au vu des enjeux à venir et de l'évolution du monde, eh bien, on verra en fait qui est-ce qui va tenir et résister face à tout le système qui arrive sur nous. Est-ce que ce sera celles qui auront un petit peu changé, ou est-ce que les autres vont complètement, du coup, être submergées, ne vont pas pouvoir justement survivre? Et là, c'est clairement le darwinisme. En fonction de votre environnement, si votre environnement change et que vous n'êtes pas adapté, et c'est pour ça que je dis attention, c'est vous avez effectivement ce système qui dit c'est bien en fait de regarder ce qui se passe aux marges, comment est-ce que ces marges réagissent, pour savoir nous vers quelle valeur, quel chemin on doit suivre. Est-ce que c'est le bon pas? Et peut-être que c'est quelque chose entre les deux, en fait.
Et si on allait boire un goût? Peut-être, non?
Il y a encore deux questions. Alors, Eric, là, je la mets trop, Eric. Allez.
Une question, là, de Patrick. Très bien. Et après, on arrête là. Merci beaucoup, bonne soirée. Non, on n'arrête pas. Il y a aussi le maire.
Non, il a une question.
Allez, vas-y.
Tout à l'heure, vous parliez de l'école des mines, qui est une école publique, financée donc par l'État, qui est une école de recherche aussi. Le problème, je pense aussi, c'est que aujourd'hui, je parlais de la France, c'est un pays où la recherche est quand même majoritairement financée par des grandes entreprises qui financent de la recherche pour un but qui n'est pas, je dirais, vertueux, bien au contraire. Et il y avait, dans les années 70, Alexandre Grothendieck qui s'était soulevé contre ça, justement, en disant, lui est un grand mathématicien, si je dois travailler pour ces grandes entreprises et faire que, du coup, ça participe à... disons à l'exploitation humaine et du vivant, moi je préfère arrêter là, et il a disparu. Bon, voilà. Aujourd'hui on en est où en fait dans le monde de la recherche en France? Est-ce qu'on est toujours au même stade, je veux dire, d'un point de vue financement? Est-ce que c'est plus vertueux qu'avant, ou c'est pareil, c'est pire?
Bon, the question. Une question qui, effectivement, moi-même, en tant que chercheuse, m'a taraudée. Je suis d'accord que la recherche, il faut de l'argent. Ça, c'est clair. l'État en a mis beaucoup, ça c'est vrai. Et pour avoir par exemple des projets de recherche nationaux, ce qu'on appelle les ANR, aujourd'hui, il vous faut partir avec une entreprise, c'est clair, pour pouvoir justement développer la souveraineté industrielle de la France. Ça fait déjà plusieurs années hein, que moi, quand j'étais en thèse et en post-doc, on pouvait faire encore beaucoup de recherches sans forcément avoir un industriel avec nous. Plus effectivement les années ont avancé, plus il y a eu cette demande en fait de devoir devoir trouver un industriel pour que justement les projets de recherche que l'on développe puissent ensuite derrière être utilisés sur un territoire pour un industriel. C'est vrai. Après, rien n'empêche qu'on a cette recherche qui est très fondamentale. C'est-à-dire une recherche où nous avons encore beaucoup d'appels qu'on appelle les ANR blancs, en fait, où là, vous n'avez aucun besoin d'industriel pour pouvoir faire votre projet de recherche. Et dans tous les cas, vous avez la déontologie du chercheur qui va travailler bien avec qui il veut. Moi, personnellement, à l'École des Mines, lorsque je suis arrivée, je venais... j'ai fait un peu tout. Hein. J'ai fait le CEA, j'ai fait le CNRS, j'ai fait Pierre Fabre, j'ai fait du privé, j'ai fait du public. Voilà, j'ai un peu tout fait. Et quand je suis arrivée ici, on m'a dit « Ah, tu comprends, sur la problématique de l'eau, ce qui est important, c'est d'avoir des gros industriels parce qu'il faut faire rentrer de l'argent. » Eh bien, un jour, j'ai dit « Ben, là, ça fait 10 ans que je travaille sur un projet. En allant chercher de l'argent qui est des fonds publics, des fonds régions, des prix chercheurs pour venir en Occitanie, etc., etc., où un industriel n'a mis aucun copec, il est hors de question qu'un Veolia arrive et dise « Je mets un petit post-doc qui, de toute façon, lui sera remboursé 2 fois plus et qui va récupérer tous les produits de la recherche. » Ça, c'est hors de question. Et en tant que chercheur, on a le droit de dire non. J'ai dit, moi, le système que je développe sera un système qui sera utilisé en régie et non vendu par un Veolia parce que j'estime qu'effectivement, déjà un projet NR, c'est tous nos impôts en fait qui le payent. Quand vous mettez de l'impôt, ça, dans les projets de recherche. Veolia, quand il va chercher un crédit impôt recherche, ben, ça porte le nom, hein, impôt recherche, donc c'est nos impôts qui payons Veolia. Et Veolia, s'il utilise mon système, eh ben, il va vous faire payer pour pouvoir mesurer la qualité de votre eau. Donc là, on a le droit de dire non. Dire que ça n'existe plus, c'est faux. Effectivement, les industriels, souvent, sont dans nos projets de recherche. Et malheureusement, pour avoir les budgets, souvent, il faut les avoir avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est poings et pieds liés avec eux. C'est très... Non. Très sincèrement, non. Parce qu'on a le droit, justement, de choisir nos sujets. Et c'est pour ça, en fait, quand vous aviez notre directeur adjoint qui vous expliquait, en fait, que nous avons des sujets de recherche qui sont notamment sur l'environnement, sur les écomatériaux, etc. Donc, nous allons choisir, justement, les partenaires avec lesquels nous allons faire notre projet de recherche, quand bien même ils soient industriels. Oui, pour l'École des Mines. Non, c'est pas. En fait, ce qui se passe à l'École des Mines, je pense que ça se passe un peu partout. Les chercheurs, ils se sont soulevés, ils ont voulu faire un Manhattan de la recherche en disant « Ben non, là, aujourd'hui, je ne souhaite pas faire une recherche qui soit aux opposés, aux enjeux à venir. » Et je pense que de moins en moins de personnes seront d'accord pour accompagner. Il y en aura toujours, hein. Même dans les élèves que je forme, il y a certains qui me disent « Moi, le Volkswagen Gate, il n'y a aucun problème. J'ai envie d'avoir plein de sous à la fin du mois. Je suis payé pour ça. Si on me demande de venir trafiquer la voiture, ça ne me posera aucun problème parce que moi, je veux avoir ma Ferrari. » J'ai eu ces réponses-là. Donc, vous allez avoir des chercheurs qui leur posera aucun problème d'aller travailler avec un Total sur des projets complètement aberrants environnementalement et d'autres qui diront non, là je ne veux pas, et ça se fait de plus en plus. Après, je sais pas quoi dire d'autre comme mon retour, mais en tout cas c'est en tout cas moi je sais que je vis ça et que j'ai beaucoup de chercheurs, notamment au CNRS, c'est comme ça qu'ils travaillent aussi.
J'ai le mot pour conclure. Ce soir, le propos, il est rafraîchissant. Merci, parce qu'on a parlé de politique. Je m'évertue à dire qu'on fait de la politique à mon conseil municipal, même lorsqu'on n'est pas d'accord sur les idées de fond. Mais ce qu'on fait tous les jours, ça a une conséquence. Tous nos actes, ils ont une conséquence. Et c'est des sujets qu'on pose systématiquement. Pour répondre à certaines réflexions que j'ai entendues, ce n'est pas parce que tout le système est défaillant ailleurs que nous, garant de la dépense publique à Saint-Paul-Lacoste, on va faire comme les autres. Il n'est pas question qu'on achète de la merde parce que les autres le font. Donc, à un moment donné, bien sûr, on est minoritaire, mais il faut des gens qui montrent la voie. Peut-être que ce n'est pas la bonne, on s'en fout, on a des convictions, on montre celle à laquelle on croit. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de réactions. Et je trouve que le débat a été très très riche ce soir. Moi, j'ai une question de chef d'entreprise, parce que dans la vie civile, je suis aussi chef d'entreprise. Et je terminerai là-dessus. J'ai remarqué dans le monde de l'entrepreneuriat que les procédures ont remplacé les humains. On performe, comme tu le disais si bien, Olivier, tout à l'heure. On a des stats, on doit rendre des dossiers dans des temps impartis. Les actes nous sont payés à l'image des actes médicaux lorsqu'on a décrété qu'il fallait payer à l'acte dans l'hôpital public, par exemple. Et les intervalles, cette fameuse marge qui tient la page, les intervalles, tout ce qu'il y a pour que ça fonctionne, c'est-à-dire tout le travail que font les gens pour que les process marchent, est totalement transparent pour le donneur d'ordre. Moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je me pose la question suivante. Comment je fais pour dire à mon client « Non, ça, c'est pas possible, parce que la procédure ne fonctionne pas, le temps affecté pour pouvoir débunker le système ne m'est pas payé, je ne peux pas répondre à ta demande. » Comment on fait, nous, entrepreneurs, pour mettre le doigt sur « On est robuste, on sait faire, on peut débunker, on peut déminer, mais sauf que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de payer nos collaborateurs. » Et comme j'en profite, j'ai le fondateur du groupe Engage et du groupe Interface qui sont des entrepreneurs. Je fais comment ?
Vas-y, je t'en prie.
Eh bien, on est dans la merde. C'est bien le problème.
C'est pour ça que d'accord. C'est l'heure du Clinton.
Exactement.
On en parlera autour d'un verre.
Avec plaisir.